voulez comprendre?
Ah, oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car c'est bien ça.
Ben, c'est Martin Carly qui
je
est là.
Suis toujours là.
Martin, on t'a pas posé la question, mais t'es revenu hier. Est-ce que t'es un peu en décalage?
Je suis très en décalage. En fait, c'est 13 heures de décalage avec le Japon. Donc, ce qui est quand même fascinant, parce que tu reviens du Japon, puis essentiellement, tu fais un vol de 12 heures, mais t'atterris un peu plus tôt que l'heure à laquelle t'es parti au Japon. Donc, c'est comme si t'as voyagé
c'est
dans le temps.
C'est très déstabilisant.
C'est très déstabilisant,
là, maintenant, il y a des vols directs.
Vols directs depuis
ça,
quoi? Depuis
bien.
Le mois de juin à l'aéroport Trudeau. Donc, ça se fait très bien. Pas d'escale, honnêtement. Moi, mon critère, c'est est-ce que mes enfants sont tannés ou pas et endurer ça facile. Le retour, c'est à 11h30, 11h45. C'est pas si pire que ça, honnêtement.
Bon.
Vraiment pas.
Bon, Martin, on va débuter en parlant... Ça a été
la
grande nouvelle de la semaine
ben
pour tous les scientifiques et tout le monde qui s'intéresse à ce qui se passe dans l'espace. Il y a un lac sous la surface de Mars.
Exactement, et pas un petit lac. Hein. On parle d'un lac qui fait environ 20 km de long. Donc, c'est un lac très, très imposant. Et c'est un lac qu'on aurait peut-être pu découvrir plus tôt si on s'était fié aux signaux qui étaient détectés par le radar sur la sonde européenne qui est en orbite autour de Mars. Mais pendant un bout de temps, on s'est dit non, je pense que c'est une anomalie, puis ça marche pas, c'est pas des résultats qui sont fiables, parce que le problème, c'est que, en fait, pour savoir comment on a détecté ça, c'est il y a un radar sur une sonde qui est en orbite autour de Mars, une sonde lancée par l'Agence européenne, et ce radar-là envoie des ondes radio en direction de la surface de la planète. Ces ondes radio-là peuvent être réfléchies sur toutes sortes d'affaires et revenir vers le radar qui, là, peut les analyser. Donc, analyser ce qui a été réfléchi par la surface. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est pas à tous les passages au-dessus des mêmes endroits de la planète Mars qu'on détectait la même affaire. Donc, les chercheurs se disaient, c'est peut-être une anomalie. Des fois, on voit quelque chose. Des fois, on voit pas la même chose.
Okay.
On comprenait pas. Et ils se sont rendus compte, essentiellement, que comme c'était une quantité de données énorme que la sonde devait traiter, ben, la sonde faisait un genre de tri, faisait un genre de moyenne, ce qui atténuait certains signaux, certaines anomalies qui auraient pu être détectées à chaque fois, finalement. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à une autre puce sur la sonde d'analyser toutes les données, donc carrément de donner un coup de main pour analyser tout. Et là, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils passaient au-dessus de la même région de Mars, on voyait la même chose. Qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, on voyait une région à peu près 1,5 km sous la surface du pôle sud de Mars, qui est déjà recouvert d'eau glacée. Mais là, en profondeur, on voyait ce qui semblait être de l'eau liquide. Pourquoi est-ce que ça semblait être de l'eau liquide? Parce que la réflexion des ondes radio vers le radar n'était pas la même que lorsque ces ondes-là frappaient de la roche ou frappaient de la glace.
Okay.
Exactement. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être de l'eau là. Et on a confirmé ça avec une autre caractéristique de l'eau liquide, là, qui, donc, ce qu'on voyait là, ça se comportait pas de la même manière que de la roche ou de la glace non plus. Donc, on se dit, c'est très, très probablement de l'eau liquide. Là, il y a un mais. Parce que là, on pourrait dire, ah ben cool, s'il y a de l'eau liquide, y a-tu de la vie là-dedans? Probablement pas. Parce que dans ce lac-là, si ce lac-là est liquide à cet endroit-là, mais si on compare sur la Terre, on en a des lacs liquides, par exemple, en dessous du Groenland ou en dessous de l'Antarctique. Là. On en a sous la Terre. Mais ces lacs-là sont liquides parce que cette eau-là est réchauffée par le cœur de la planète qui est chaud. Je parle de la planète Terre. Donc, le cœur, le magma en fusion, si on veut, ça envoie de la chaleur vers la surface. Ça réchauffe cette eau-là pour qu'elle devienne liquide. Et la glace exerce une certaine pression, ce qui modifie la température à laquelle la glace peut fondre.
Okay.
Mais sur Mars... La gravité, pas comme sur la Terre, et l'atmosphère n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc, si c'est liquide à cet endroit-là, de la croûte martienne, si on veut, c'est très probablement parce qu'il y a énormément de sel dans cette eau-là. Et s'il y a trop de sel, il n'y
a
pas de vie
qui
va pousser là-dedans. Non, exactement.
Mais est-ce qu'on va pouvoir le savoir un jour?
Sûrement. Non seulement pouvoir le savoir un jour, mais ce qui est excitant de cette nouvelle-là, c'est que ça amplifie le désir de les trouver, ces lacs souterrains-là sur Mars, parce que ça se peut qu'il y en ait ailleurs sur Mars. C'est sûr qu'il n'y en a pas à la surface, parce que l'atmosphère ayant changé sur Mars, l'eau s'évaporerait si elle se trouvait à la surface de Mars. Elle ne peut pas demeurer sous une forme liquide à la surface de Mars. Donc, s'il y a de l'eau liquide, c'est nécessairement sous la Terre qu'on va la trouver. Et là, ben, on est bien excités pour essayer de trouver ces lacs-là ailleurs. Je vous rappelle les raisons. Il y en a deux. Premièrement, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. De toute évidence, Mars a une histoire qui est différente de notre planète à nous. Et on voudrait savoir, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses, des leçons qu'on peut apprendre de ça?
Ben ouais.
Exactement. Et deuxièmement, ben, si on va envoyer des humains sur Mars puis qu'on trouve de l'eau là-bas, ça va peut-être éviter de la transporter.
Ouais. Hein? Ce ne sera pas pour tout de suite. Là.
Non, parle de 20 à 30 ans.
Bon, là, je suis intéressée par ta deuxième nouvelle parce que je suis propriétaire d'un chat.
Moi aussi,
et grande
depuis
amoureuse
un mois.
Des chats.
Ben voilà.
Ah, depuis un mois, c'est tout nouveau.
Oui.
Et apparemment, les propriétaires de chats ont des aptitudes pour ou développent le sens des affaires.
Oui, absolument. Et ça, c'est lié à un parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Oui, exactement.
Ouais.
Non, c'est pas parce qu'on aime les chats que ça arrive.
Non, OK, il y a une bébite, là.
Il y a une bébite qui entre en ligne de compte ici. Cette bébite-là est franchement très intéressante. C'est un parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Un parasite dont le cycle de vie complet ne se fait que chez les félins, mais qui peut contaminer d'autres animaux, dont nous autres. Fait qu'on peut être porteur de ce parasite-là, mais il ne peut pas se reproduire dans notre corps à nous. Mais on peut être porteur. Et non seulement on peut être porteur, mais il peut aller avoir toutes sortes d'effets qui modifient notre comportement. Et c'est là que c'est franchement intéressant. Notamment, il y a des études dans le passé qui avaient montré que, par exemple, des chimpanzés qui sont contaminés par ce parasite-là deviennent attirés par l'odeur de l'urine des léopards qui sont leurs prédateurs. Donc, imagine-toi, le prédateur, finalement,
Mais ça marche pas, c'est déstabilisant.
Ben, exactement.
Lui, il se met en danger complètement.
Exactement, ouais. Exactement. Et là, tu vas voir pourquoi je vous parle de ça. L'intérêt, par contre, là-dedans, c'est comme ce parasite-là ne se reproduit que chez les félins. Ben, si la source de nourriture d'un félin devient plus facilement accessible, ben le parasite va se retrouver plus facilement dans le félin pour se reproduire. Donc ça, c'est l'évolution en marche qu'on est en train de voir là. C'est complètement pété. Là où ça devient intéressant, c'est que chez l'humain, parce qu'on est un primate, nous aussi, on a une évolution différente, mais quand même, ben, chez l'humain, on se rend compte que ce parasite-là pourrait aller affecter, pourrait aller dans l'amygdale qui gère nos peurs, par exemple, pour modifier carrément notre comportement. On a moins peur quand on est contaminé par ce parasite-là et on est plus attiré notamment par l'odeur de l'urine de chat ou peu importe. Il y a des gens qui disent même que c'est probablement à cause de ce parasite-là qu'on aime autant les chats et que la domestication a été aussi facile.
Donc.
Absolument. Imagine-toi.
Là, c'est poussé un peu...
Mais c'est très, très intéressant. Et là, ce que ces chercheurs-là... Là, je vous parle d'une étude très récente parce que ça fait plusieurs années déjà qu'on fait des recherches là-dessus. L'étude récente nous dit quoi? Eh bien, c'est des chercheurs qui ont fait qui ont analysé des tests de salive sur des milliers d'étudiants universitaires et ils ont fait une corrélation entre ça et leur désir d'aller en entrepreneuriat ou en management, donc en gestion par la suite. Eh bien, lorsqu'ils sont contaminés par ce parasite-là, ils ont 1,7 fois plus de chances d'être intéressés par l'entrepreneuriat et la gestion que s'ils ne l'ont pas. Pourquoi?
Parce que
ce parasite-là qui vient affecter une partie précise de notre cerveau permet d'amplifier des réflexes d'impulsivité, l'ambition, la recherche de biens matériels. Et ce sont toutes des aptitudes qui sont liées avec l'entrepreneuriat et la gestion. Donc, essentiellement, c'est un parasite qui vient diminuer notre peur. Ce qui a longtemps dans notre évolution a sûrement aidé à se faire croquer par des grands félins, mais qui maintenant va peut-être nous aider à être dans les affaires.
Ça aide à avoir de l'audace, en tout cas.
Exactement.
Mais là, c'est pas tous les chats qui sont porteurs du parasite.
Non, pas nécessairement.
Parce que vraisemblablement, mon chat l'a pas, moi.
Bon, ben voilà. mais remarque que c'est la raison pour laquelle, notamment, parce que ça peut causer la toxoplasmose, qui est pas une maladie le fun, notamment pour les femmes enceintes. C'est pour ça qu'on demande aux femmes enceintes de ne pas toucher au bac à litière, de pas changer la litière, parce que là, on voudrait pas être contaminé par ça et avoir la toxoplasmose. Ça, c'est dangereux pour le fœtus, là. Mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, quand on parle d'un être vivant, ben, on ne peut pas le dissocier de tous les êtres vivants avec lesquels il est en contact.
Il y a une interaction qui se fait
avec
tout ce qui vit.
Avec tout, exactement. Ouais. Donc là, on parle ici d'un parasite qui est composé d'une seule cellule, mais c'est aussi pourquoi, en recherche scientifique, on parle de l'apport génétique de, des millions et des millions de micro-organismes dans notre estomac, mais dans notre intestin, par exemple, notre flore intestinale et tout ça. Faut tout intégrer ça quand on essaie de comprendre comment un être vivant peut fonctionner
réagir
de façon harmonieuse à son environnement. Exactement.
Bon, on va quand même prendre quelques secondes parce que je suis très intéressée par cette nouvelle pour nous parler. Tu veux nous parler de la Suède où on combat des incendies de forêt avec des bombes.
Exactement.
Des bombes de
quoi? Ben, carrément des bombes, des vraies bombes.
Ben, voyons donc.
Ben oui, absolument. Et je voulais vous en parler ce matin parce qu'on a parlé beaucoup des incendies de forêt.
Ah, c'est épouvantable.
Et tout ça en Grèce,
c'est terrible. Dans le domaine de l'horreur.
Voilà. Et non seulement c'est terrible pour la Grèce, mais c'est terrible pour le reste de l'Europe qui reçoit ces fumées noires-là. Mm-hmm. Ça augmente les températures globales et tout ça. C'est vraiment pas une situation facile en Europe. Eh bien, en Suède, il y a des endroits, il y a des feux de forêt, il y a beaucoup de forêts en Suède, bien entendu. Il y a des endroits qui sont très difficiles d'accès. Et là, l'armée suédoise a décidé de larguer des bombes guidées avec des GPS et des lasers. Donc, c'est des bombes très sophistiquées. Ils sont capables de les guider de façon très précise pour éteindre des feux de forêt dans des endroits qui sont soit inaccessibles, soit dangereux parce qu'il y avait des feux de forêt près de zones militaires où il y avait des munitions qui pourraient exploser si les pompiers se rendaient à un endroit comme ça. Alors, ça fonctionne comment? Ben, essentiellement, il largue la bombe et la bombe, lorsqu'elle explose, crée une onde de déflagration. Donc, il y a carrément de l'air qui est poussé dans toutes les directions tout autour de l'impact.
Ça fait pas que le feu s'étend?
Non. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait la même chose que quand on souffle sur une bougie, sur un gâteau d'anniversaire, c'est la même chose. On décale la source de chaleur, qui est la flamme, de ce qui brûle, le combustible. Et si les deux sont pas ensemble, ben, il y a plus de feu, là, tout simplement. Parce qu'en science, on parle du triangle de feu. Donc, ça prend trois choses pour qu'il y ait un feu. Une source de chaleur suffisante, quelque chose qui brûle, et un gaz qui favorise la combustion. C'est souvent l'oxygène. En fait, c'est la plupart du temps de l'oxygène. Donc, les pompiers, eux, quand ils veulent éteindre un feu, il faut qu'ils agissent sur un des trois éléments. Si t'enlèves un des trois éléments, il n'y en a plus de feu. Dans ce cas-ci, la bombe permet d'éloigner la source de chaleur de l'endroit où ça brûle, donc du combustible. Résultat, comme si on soufflait sur une bougie, on réussit à éteindre le feu. Ça fonctionne, c'est franchement fantastique.
Est-ce qu'on c'est pratiqué ou c'est analysé en ce moment?
Ça a été utilisé de façon spectaculaire
avec
Suède. Oui, absolument. En passant, pour les gens qui se posent la question, c'est pas la première fois que que l'armée est mise à contribution pour utiliser des bombes contre la nature, pour essayer de régler des phénomènes naturels. La Russie et la Chine ont souvent utilisé, ou ont déjà, pardon, utilisé dans le passé, des bombes pour débloquer des amas de glace dans des rivières. Donc, je trouve ça le fun des fois que la technologie militaire peut nous permettre de faire autre chose que tuer du monde,
oui,
plutôt d'essayer de sauver du monde.
Et on ne fait pas que ça, combattre dans l'armée.
Voilà, exactement.
Merci infiniment de ta visite encore une fois ce matin, puis bon décalage. Là.
Merci.
J'ai l'impression que ça va te tomber dans le corps dans les prochaines heures.
Je pense, à l'heure du souper, je risque de dormir.
Merci Martin, à la semaine prochaine.